aventures des courageuses avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Bienvenue dans la deuxième émission sur des courageuses. Je suis vraiment contente de pouvoir vivre cette aventure-là avec vous, de vous faire rencontrer, découvrir des femmes sourdes, malentendantes, vraiment inspirantes. Je suis encore accompagnée de mon interprète, je dis mon interprète, pas la mienne, de l'interprète Lynn Gargano, qui va interpréter finalement tout le contenu de mon émission. C'est filmé aussi, donc vous allez pouvoir retrouver les images parce qu'on veut que ça soit accessible à la communauté sourde, évidemment. Alors, ça va être des images filmées. On me voit, moi, l'interprète, et on voit l'invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais juste avant, j'avais envie de vous... parce que j'aime ça faire aussi un petit peu de sensibilisation et d'éducation. La fameuse expression « sourd et muet », hein, on entend souvent ça. Même moi, souvent, je vais parler, je vais dire que je suis impliquée auprès de la communauté sourde et c'est pas très long que quelqu'un va me dire « Ah oui, sont sourds et muets » et à chaque fois, ça me frise les oreilles parce que c'est pas ça la réalité. Hein? Parce que le fameux « sourd et muet » revient dans le temps. Là. C'est des siècles et des siècles qu'on disait ça. Et la plupart des personnes qui sont entendantes avait une image péjorative de la sourdité et de la mutité. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, bien, les gens pensent que les personnes sourdes, bien, en fait, ils ont une difficulté à communiquer. Et s'ils ont une difficulté à communiquer, ça veut dire qu'ils sont muets. Alors que le muétisme, la mutité, je ne sais jamais quel mot dire, en fait, c'est en lien avec les cordes vocales. Hein? Le muet, ça veut dire qu'il n'y a aucun son qui peut sortir de la bouche. Absence de cordes vocales. Et les cordes vocales des personnes sourdes fonctionnent parfaitement. Ça n'a aucun lien. Alors, on enlève le fameux mot sourd et muet et on se concentre à dire sourd ou malentendant. Et là, ma prochaine invitée que je reçois, elle est malentendante, justement, oraliste, et on va pouvoir entendre sa voix. Donc, ça le dit, hein, elle n'est pas muette du tout, du tout. C'est Mariana Ruel. Allô, Mariana?
Allô?
Allô? tu me disais que tu étais contente parce que tu as dit « Wow, la radio, c'est comme si là, ça devient accessible, hein? »
Oui, en effet, toute ma vie, j'ai entendu comme la radio dans la voiture et tout. Bon, j'ai jamais rien compris que tu disais, mais je trouvais ça le fun aujourd'hui d'être invitée pour... Que ça soit accessible, là, c'est le fun, c'est la technologie.
Oui, ben oui, vraiment. Et là, Mariana, ben justement, les gens disent, OK, mais là, elle entend. Donc, ça veut dire, si on remonte à la petite Mariana, t'es née, et est-ce que t'étais sourde? Est-ce que t'étais déjà, on appelait ça malentendante?
Oui, en fait, moi, je suis née avec une sourdité légère.
OK.
Et à l'âge d'un an et demi environ, j'ai eu une perte auditive.
Complète?
Ça a descendu comme graduellement, parce que c'est dégénératif. Fait que, ça l'a descendu graduellement.
OK.
Et là, je me suis mis à crier. À crier, crier, crier.
Ah oui?
Crier, sans arrêt. Puis moi, j'ai deux frères plus vieux qui sont entendants. Puis mes parents se sont tout de suite mis à douter, tu sais, à dire, ben voyons, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, mais ils n'ont jamais comme associé ça à la sourdité.
Tes parents sont-ils entendants?
Oui.
OK, c'est ça. Donc, parents entendants, frères entendants.
Oui.
Et la petite Mariana, toute seule, sourde, ben, fait que là, tout d'un coup, il y a une perte auditive, et là, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu cries, parce que dans le fond, tu cries parce que tu n'entends plus dans tes oreilles. Alors, c'est comme une façon d'aller percevoir quand même un son.
Mais tu sais comment que je pouvais juste plus communiquer. Tous les mots qu'on essayait de me montrer, d'apprendre, ben ça rentrait peu.
Mais au début, là, dans le fond, toi, on t'enseignait le français oral.
Ben moi, quand je suis née, j'avais un an et demi, fait que bien, là, si j'avais appris quelques mots.
Oui, mais... maman, papa...
Oui, genre, à peu près, là, c'est des mots super simples. Je sais pas parfait parce que c'est quand même une tonalité légère quand je suis née.
Oui.
Mais il y avait personne qui était au courant.
Mm.
Puis on a découvert ça quand j'avais 3 ans et demi.
Eh!
Ouais.
Officiellement, 3 ans et demi, on a découvert que finalement, tu avais une sourdité quoi, finalement, profonde?
Moyenne à ce moment-là.
Moyenne, OK.
Oui, c'est ça. Moyenne à sévère.
OK.
C'est pendant mon enfance, j'ai eu 3 grandes pertes auditives importantes. Donc, à 1 an et demi, au primaire, puis ensuite au secondaire.
Ah oui, OK. Donc, ça veut dire qu'au début, tu es sourde légère. Après ça, sourde moyenne à sévère. Et là, tranquillement, sourde profonde.
C'est ça.
OK. Mais là, comment ça se fait qu'on arrive à communiquer, toi et moi? Parce que, dans le fond, sourde profonde, habituellement, il n'y a plus aucun son autre, peut-être, que des vibrations.
Bien, en fait, une sourdité profonde, c'est pas nécessairement une sourdité complète.
OK.
Dans le fond, moi, j'ai commencé à apprendre à parler aussitôt au moment qu'on m'a mis des appareils à 3 ans.
Tu as eu des appareils?
Oui.
OK. Des appareils? Tu sais, juste expliquer aux auditeurs...
Un appareil auditif, là, dans le fond.
Oui. Mais c'est-tu un implant cochléaire, comme on entend des fois? Non, OK, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas du tout la même chose. C'est... Moi, c'est vraiment comme un contour d'oreille avec un embout.
Oui.
Puis là, dans le fond, le son, il est complètement naturel, mais il est amplifié.
OK. Là, ça veut dire qu'à ce moment-là, on te met des appareils... Mais encore là, c'est pour l'objectif, c'est que tu sois en mesure de communiquer le français.
Exact.
OK. Ouais. OK.
Et dans le fond, c'est ça, le but premier, c'est que l'enfant soit capable de parler.
OK. Et là, à ce moment-là, on met les appareils. Ça veut dire que toi, tu fais ton parcours, une partie de ton parcours scolaire dans une école régulière avec des entendants?
Ben oui, en fait, du moment où on m'a mis des appareils à 3 ans et demi, j'ai été suivie à l'Institut Raymond Domoire à Montréal pour apprendre à parler, pour apprendre à communiquer, parce que c'est pas la même chose qu'un enfant entendant qui apprend à parler avec les gens autour. Mm-hmm. C'est beaucoup des techniques qui sont différentes.
Mais là, on parle au niveau vraiment, au niveau oral. Ils t'ont pas appris la LSQ?
C'était pas... Non. C'est pas la même chose.
C'est ça, c'était pas ça la priorité. La priorité, c'était que tu sois fonctionnel avec le français.
Oui. Okay. Que je sois capable de faire de la lecture labiale, de reconnaître les sons, que je sois capable de décoder les mots, décoder la parole, dans le fond. D'associer les sons avec la lecture labiale.
Oui.
C'est vraiment ça.
Quand tu dis la lecture labiale, pour les gens, là, de bien comprendre, en fait, c'est ce qu'on appelle lire sur les lèvres.
Oui.
Un peu comme, exemple, toi et moi, on parle. Si tu vois ma bouche, tu es en mesure de quand même bien comprendre, parce que pour vrai, nous, on peut avoir des grandes discussions et on se comprend très, très bien. Parce que c'est vraiment quelque chose de facile avec toi, parce qu'il y a des personnes, on le voit tout de suite, qu'on va dire 2-3 mots et on va devoir même ajuster notre propos avec des mots simples et tout ça. Mais toi, pas du tout. On peut vraiment parler de n'importe quoi. Mais par contre, si je me tourne de côté et je te parle encore, là, tu viens de perdre tout ce que j'ai dit.
Dans le fond, ça s'appelle un bris de communication.
C'est ça. Vraiment. Donc, on doit vraiment tout le temps se regarder.
Oui. Mais c'est ça qui est différent, c'est que quand j'étais jeune, j'étais capable d'entendre, mettons, au téléphone, ou j'étais capable de céder plus de mots avec, mettons, mon père, qui a la voix très grave.
OK.
Donc, avec lui, ben j'étais longtemps capable de parler au téléphone avec lui, mettons. Mais c'est vraiment simple. Genre, papa, peux-tu venir me chercher? Oui, quelle heure? C'était vraiment simple. Pas une conversation.
Non.
Mais avec le temps, les années, ben là, ça le...
C'est plus possible.
C'est plus possible.
C'est ça, là, tu peux pas parler au téléphone. Non. Là. C'est ça. On est vraiment dans... Là, t'as eu une perte auditive plus importante.
Ouais.
Ce qui veut dire que là, t'as-tu encore... des appareils?
Non, en fait, j'ai... Alors, quand on m'a mis des appareils, ouais. ben, on m'a forfé, en fait. Là. Puis souvent, les enfants, ils vont les enlever, les appareils, parce que ça les dérange. Mais moi, j'ai gardé juste un appareil. Puis j'enlevais l'autre, puis là, je disais que j'avais mal.
Oui.
Puis on a réessayé plusieurs fois, puis ça me fait vraiment mal.
C'est pour vrai, ça te fait mal, les appareils?
Oui, ça me fait vraiment mal dans l'oreille droite. Dans le fond,
c'est le
j'ai une malformation différente.
De l'oreille en tant que telle?
Oui, dedans l'oreille interne, j'ai une malformation qui est différente de l'oreille gauche.
OK.
Fait que c'est en sorte que tous les sons qui sont amplifiés, ben si je sens le tympan vibrer, ça fait mal, c'est hyper douloureux. J'ai la tête qui shake tout le temps quand j'ai un appareil. Pour vrai, c'est désagréable, même sans appareil.
Oui.
Si je suis à côté d'un haut-parleur, je suis obligée de me boucher l'oreille.
Ah, oui. Hein?
Alors que celle-là, j'ai un appareil qui est amplifié x10, le son.
Oui.
Ça me dérange aucunement.
OK. Ça veut dire que, dans le fond, tu as ton oreille gauche qui a tout le temps un appareil.
Oui.
Là, en ce moment, tu as, dans le fond, ton appareil du côté gauche.
Oui.
Tu n'en as pas du côté droit.
Et... Dans le fond, j'appelle ça l'oreille morte.
que dans le fond, elle est là, par parure, d'avoir une belle oreille et pouvoir mettre des boucles d'oreilles. Mais il n'y a rien que tu entends avec cette oreille-là?
Non, il n'y a absolument rien. Okay. Puis je veux pas même les tests de 2 grammes et tout. J'ai refusé tout de cette oreille-là parce que ça me fait vraiment douloureux.
Ça fait mal, c'est ça.
C'est vraiment douloureux. C'est vraiment peu agréable.
Mm-hmm. Et ça, ça veut dire que là, toi, à ce moment-là, avec ton appareil, ou est-ce que tu es finalement malentendante, qu'on pourrait dire, oraliste, bien, comment ça se passe? Parce que là, dans le fond, tu as fait ton parcours scolaire comme une entendante. Et là, après ça, oui, c'est ça, mais ça reste que tu n'es pas entendante, là.
Non, c'est ça. En fait, après l'Institut Raymond Domoire, j'ai été intégrée à l'École Saint-Jude pour faire à Longueuil, là où il y a un secteur pour personnes, enfants malentendants, là, dans le fond.
Oui.
Et on apprend la LPC.
LPC?
LPC.
Ça, c'est quoi?
Et le langage. LP, parler, compléter. Merci.
Tantôt aussi, Alice Dulude là, a dit ça, mais c'est quoi LPC? Donc, dans le fond, ça change quoi?
C'est tout ce qui est allé avec la lexo labiale. Dans le fond, c'est toutes des lettres, parce que je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps, mais c'est des signes en lien avec le visage. Seulement.
OK. Mais on n'est pas encore dans la LSQ.
Non, vraiment pas. On est très loin de la LSQ pour moi.
OK. Mais tu as fini par apprendre la LSQ?
Au cégep.
OK. Mais est-ce que là, c'est parce que... Parce que là, justement, tu as fait tes études. Bon, tu es à Saint-Jude. Là...
À Saint-Jude, j'ai été intégrée tout de suite à 6 ans, en première année de primaire, intégrée à l'école de mon quartier.
Ah oui, OK.
Oui. Fait que
j'ai fait
ma scolarité au complet avec les entendants, puis avec un système, le micro, un système FM qu'on appelle, ton micro qu'on donne au professeur, puis que moi, c'est connecté avec mon appareil, puis que j'entendais le professeur, comme s'il me parlait tout le temps dans l'oreille.
Oui, c'est ça. OK, OK. Mais là, à ce moment-là, toi, tu as fait ton parcours, finalement, avec les entendants, primaire, secondaire.
Ouais.
Mais là, comme tu dis, là, tu parles du cégep. Fait que là, toi, quand t'as terminé le secondaire, est-ce que tu savais qu'est-ce que tu voulais faire au cégep?
J'avais aucune idée.
Non?
quand j'étais plus jeune, je voulais devenir comédienne, puis c'était pas accessible, justement. accessible, malheureusement. Fait que je me suis tournée vers l'écoute. Je me suis dit que j'aimais beaucoup écouter les gens, fait que je vais essayer d'aller étudier en technique du travail social.
Ah oui, OK. Pour être intervenante.
Oui, c'est ça, comme intervenante. Oui. Et à ce moment-là, mais je savais que j'aurais de la difficulté avec les entendants, justement.
Mm-hmm. Parce que là, dans le fond, tu fais technique en travail social au cégep, encore là, avec Des entendants?
Oui, des entendants seulement, puis avec le système FM, oui. Et c'est là que je me rendais compte que ça fonctionnait pas du tout. Là.
Non?
Non, ça fonctionnait pas du tout parce qu'au cégep, il y a beaucoup d'interventions des ouais. élèves et tout, puis moi, je comprenais absolument rien.
Ah ouais, OK.
Absolument rien. Le temps que je cherche, c'est qui parle.
Oui, c'est fini.
J'ai perdu. Là, un autre qui parle, le prof qui répond, j'ai tout perdu. Okay. Ça ne fonctionnait pas du tout. J'avais beaucoup de difficultés. Et là, j'ai rencontré des personnes sourdes. Puis j'ai commencé aussi mon cours d'anglais intégré avec les sourds.
Ouais.
Et j'ai commencé le cours de LSQ 1.
À ce moment-là? Cégep.
Ouais, c'est en même temps, en parallèle. C'est là que j'ai fait que... Wow, j'avais 19 ans.
Fait que t'es vraiment allé faire un cours, quand on dit LSQ, c'est vraiment comme oui. apprendre, moi qui veux aller apprendre oui. l'anglais parce que je suis pas très bonne oui. en anglais. Donc, c'est vraiment la même chose. Je pourrais aller apprendre la LSQ aussi, là, oui. Facilement. Mais là, ça veut dire que toi, t'apprends ça. Et là, quand t'apprends la LSQ, là tu dis-tu, OK, ben là, moi, je vais être travailleur social, mais travailleur social, même si j'ai la LSQ, il n'y a pas un cours de travail social qui existe, interprété en LSQ?
Je comprends pas quelle est la question.
Ben, en fait, l'enfant, c'est de dire que même si t'as appris la LSQ,
ouais.
comment ça t'a aidé pour aller faire travail social, parce que il n'y a pas de cours qui est donné par un enseignant qui parle en LSQ en travail social.
Non, ben en fait, je suivais les cours avec les entendants, mais à la longue, un an plus tard, quand j'ai suivi d'autres cours de LSQ, que j'étais meilleure, ben là, j'ai oui. demandé à avoir des interprètes dans mon cours. Mais ça n'a pas été facile, c'est une grosse adaptation, là, parce que c'est quand même 3 heures à écouter un interprète quand t'es vraiment pas habitué.
Oui.
C'était vraiment pas facile.
Mais là, c'est pour ça que tu dis que tu avais 19 ans, là, donc c'est quand même impressionnant parce que c'est pas. C'est une deuxième langue là, ou une troisième, ou tu sais, c'est vraiment un autre langage. Ça veut dire qu'à 19 ans, tout d'un coup, oui, tu veux travailler, tu veux être technicienne en éducation spécialisée, mais là, tu as un défi finalement d'apprentissage. Y a-tu des moments où est-ce que tu voulais lâcher tout ça?
Non, vraiment, puis je suis tombée totalement en amour avec la langue puis avec la communauté sourde. C'est là que je me suis rendue compte que j'ai commencé à accepter cette identité-là d'être sourde, en fait. Parce qu'on dit malentendant, mais je sais pas, j'ai un malaise avec ce mot-là, pour vrai.
Mais je trouve ça super intéressant que tu abordes ce sujet-là parce que moi, c'est pour ça que le titre de l'émission, c'était vraiment « Sourde et courageuse », puis c'est parce qu'il y a des gens encore qui pensent, mais tu sais, même on m'en parlait, « Ah ouais, sourde, on peut-tu dire ça, sourde? » Tu sais, comme si finalement, c'était négatif de dire « sourde ». J'ai dit « Ben non, j'ai dit c'est le contraire. » J'ai dit « C'est vraiment, c'est leur identité, c'est qu'ils s'identifient comme ça, sourde. » Et même des femmes sont malentendantes comme toi, souvent, ben c'est ça, c'est non, je suis sourde.
Oui, ben en fait, c'est ça, là. C'est un processus aussi d'acceptation. C'est pas tout de suite, je me dis, je suis sourde. Non, ça a pris vraiment plusieurs années, puis c'est quand qu'on me dit, voyons, quand t'enlèves ton appareil, t'entends quelque chose. Non, c'est ça, t'es sourde, tu l'acceptes. Puis c'est en voyant aussi les autres comment ils réagissent en société, comment que, mettons, avec mon conjoint, comment il agit en société.
Oui.
Avec, on va aller au magasin, puis ils veulent dire ouvertement qu'ils sont sourds. Ils sont zéro gênés, puis moi, je suis comme, oh my God, et que j'aurais jamais fait ça. Et moi, j'avais tout tendance à me cacher.
Oui.
Et à faire l'invisible.
Oui.
Fait que non, c'est vraiment...
C'est un processus d'acceptation, là.
Oui, c'est ça.
Et justement, ton amoureux, il est sourd.
Oui.
Tes enfants, parce que t'as des enfants. Est-ce qu'ils sont sourds?
Mes enfants sont entendants.
C'est ça. Tu as des enfants entendants. Ça oui. aussi, tu sais, des fois, on a l'impression, bien là, parce que là, toi, tu es sourde, ton conjoint y est sourd, on va avoir des bébés qui vont être sourds. Mais non, tu as des enfants entendants.
Oui.
Fait que là, ça veut dire que tes enfants parlent.
Ah, ils parlent.
LSQ, mais ils parlent le français aussi, là.
Ils parlent les deux langues. Dans le fond, là, je compare ça comme l'anglais, l'espagnol.
Oui.
C'est pas anormal pour un enfant d'avoir deux langues, mm-hmm. trois langues à la mm-hmm. maison. C'est mm-hmm. zéro anormal. Puis ouais. moi, je veux normaliser ça le plus possible. Ouais. La LSQ, c'est une langue comme une autre. Donc. Ouais. C'est ça fait partie de notre ouais. de notre maison.
Oui. Mais ça veut dire que dans votre maison, justement, ça parle.
Les deux.
Le mélange des deux ouais. ensemble, là, ça doit être magnifique. Là, tu sais, ça doit être. Tu sais, parce que justement, si ton petit bonhomme il est dans la pièce d'à côté et il dit Maman, tu l'entendras pas.
Ah non, ben c'est ça, là. C'est ça. Notre affaire.
Ben, non, mais c'est pour ça. Fait que c'est de dire que vous avez comme développé aussi, tu sais, je pense que tranquillement, ben ça devient même une autre forme de, tu sais, tes enfants, ils savent qu'ils doivent être proches de toi puis que tu les vois puis qu'ils peuvent pas être à l'autre bout de la pièce puis crier après leur maman, comme souvent on va entendre chez les entendants, là, l'enfant qui crie après son parent... « Viens ici! » Fait que le parent, il l'entend, fait qu'il peut y aller, mais pas toi, là.
Ben moi, c'est ça mon problème, c'est que j'entends quand même un peu.
Oui.
Fait que je vais toujours aller vers les cris.
Oui.
Fait que du moment que j'enlève mon appareil, que oui. j'entends pas, ben oui. eux, ils sont pas contents.
Ça t'arrive d'enlever ton appareil à la maison?
Oui, ça m'arrive. Oui, souvent. Mettons, le matin, je me lève, j'ai pas d'appareil.
Ah, c'est ça.
Et la nuit, j'ai pas d'appareil. Mm-hmm. Quand je vais me laver, j'ai pas d'appareil. Ouais, donc, il y a des moments où, mettons, j'ai une migraine, ben, je vais enlever mon appareil, c'est parce que les sons, ça va tout déranger.
Ouais, ouais.
Donc, pour eux autres, ça a été difficile de... Mais... De comprendre que maman, elle entend pas
ben
tout
oui.
à fait.
Ben oui.
Fait que là, il était habitué à ça.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça que le problème avec les gens en société, avec une personne malentendante comme moi, qui est capable de parler, capable de communiquer, ben oui. c'est qu'on oublie
oui.
que je suis sourde.
Que t'es sourde, c'est ça. Mais ça veut dire que toi, avec tes bébés là, qui pleuraient là, la nuit...
Ah, on avait un système.
Il y avait un système.
Lumière.
Bon, c'est ça. Mais c'est pour dire que dans le fond, il y a des systèmes. T'sais. Alors, oui, quand tu dis, ben oui, j'ai pas mes appareils, je suis sourde, la nuit, je dors pas avec mes appareils, ça prend une lumière. T'sais, donc, c'est toutes des adaptations quand même qui sont importantes.
Oui.
Là.
C'est super important.
Oui, mais oui. Puis, mais... puis finalement, est-ce que tu avais réussi à travailler comme intervenante là, en travail social?
Oui, j'ai déjà travaillé deux fois
oui.
Par avant, puis dans la communauté faune.
Oui, c'est ça.
Puis j'ai beaucoup aimé ça.
Oui.
Mais finalement, j'ai décidé de prendre un autre parcours.
Oui.
Mais c'est plus en lien avec les langues, justement, là, que je travaille.
OK, donc qu'est-ce que tu fais, justement, à ce niveau-là, au niveau des
là,
langues?
Là, présentement, je travaille chez Eversa.
Oui, Eversa.
Puis on travaille beaucoup sur l'accessibilité pour okay. Les personnes sourdes, justement. Donc, c'est vraiment en lien avec la langue, la traduction, l'enseignement, découvrir l'étude, etc. Il y a plein de projets. Là.
OK. Mais exemple, concrètement, là, toi, tu arrives à ta job. Là. Qu'est-ce que tu fais, là?
Je fais de tout.
Ah, OK. Mais tu fais pas d'intervention.
Ben en fait, là, je suis comme dans les consultations, les projets.
Ouais.
Mettons, des projets de traduction de l'école, le CEPAGÉ. Mettons, je vais distribuer les demandes de traduction des examens aux personnes qui peuvent traduire ça.
Mais quand tu dis traduction, là, juste pour être sûr, c'est qu'exemple, parce que Lucien Pagé, c'est déjà une école pour les enfants, les adolescents sourds.
Ben, les papiers, les examens sont écrits en français.
Oui.
Donc, déjà, en partant, c'est pas accessible pour des élèves qui ont plus de difficultés à ce niveau-là.
Donc, on dit, exemple, les examens, ça vient du ministère, finalement. C'est des examens du ministère?
Les examens, en général, oui. Sont faut tout écrire. C'est ça qui est difficile, c'est que les élèves sont évalués sur les réponses qu'ils écrivent.
Mais qui lisent? Parce que les enseignants à Lucien Pagé, est-ce qu'ils sont sourds?
Oui, mais ils ont les examens, c'est tout en format papier.
OK, donc c'est pareil.
Ils peuvent pas faire comme d'examen en format en LSQ. C'est pas adapté là, à ce niveau-là encore. OK. Fait qu'on fait traduire, puis aussi, ça évite favoritisme ou de donner les réponses.
Oui, oui.
Fait que quand c'est quelqu'un qui est neutre, qui traduit par vidéo, bien là, après ça, le professeur, il donne l'examen par vidéo. Là, l'élève peut répondre, avoir une meilleure réponse.
Oui,
OK. Que il va avoir compris avec... la LSQ.
Oui. Puis toi, à ce moment-là, bien, la fois, tu fais plus d'intervention. Tu n'es plus en contact avec quelqu'un qui est en détresse et que là, tu dois le soutenir à travers ça. OK.
C'est fini pour ce côté-là. Oui.
OK.
J'aime écouter les gens, j'aime aider les gens. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi.
Mm-hmm.
Mais pas. À tous les jours, puis faire un travail, c'est très prenant.
Oui, oui. C'est quoi je peux te souhaiter, Mariana, pour la suite? Comme, tu sais, t'as une baguette magique, là, tout peut arriver. Là. Qu'est-ce que t'aimerais, là, pour le futur?
Ah, mon Dieu, j'aimerais ça que ça soit tellement comme accessible partout, puis que j'avais pas besoin de me réexpliquer, puis de dire, ben oui, mais j'entends un peu, je suis capable de parler, mais je sonne, puis j'aimerais ça que les gens ils soient capables de s'adapter, puis de m'aider aussi.
Mm-hmm.
Parce que c'est pas juste à moi là, qui s'adapte aux autres, mais que les autres aussi puissent s'adapter à moi. Aussi que la société soit plus ouverte là, dans le fond, là, à ce niveau-là. Là.
Oui. Vraiment, merci infiniment, Mariana. Je suis super contente.
Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Oui, que tu sois venue dans mon émission. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
Ah, je suis très heureuse d'avoir rencontré Mariana. Et on va faire une petite pause et on va aller rejoindre Rachel Filion, qui est psychologue, pour la prochaine entrevue.
Vous écoutez Sourde et courageuse avec Julie Châtelain.
On va poursuivre maintenant avec une autre belle entrevue. Rachel Filion, qui est psychologue. Et déjà, moi, je la connaissais pas, Rachel Filion. Elle n'est pas du coin. Elle est plus du côté de Québec. Alors, je savais pas c'était qui, Rachel Filion. Et là, il y a plusieurs femmes sourdes qui me nommaient Rachel Filion. Et je me suis dit, OK, je vais rentrer en contact avec elle. Je veux découvrir cette femme-là. Et on dirait que j'étais impressionnée juste de savoir qu'elle était psychologue en plus. Donc, on va pouvoir jaser avec elle de son parcours. Allô, Rachel?
Bonjour, je suis vraiment contente d'être ici pour vous parler de mon parcours.
Ben oui, mon Dieu, c'est fabuleux parce que tu m'as envoyé ta bio pour que je découvre un petit peu ton parcours qui était quand même assez atypique. Et là, c'est pour ça que je me suis dit que tu étais une personne femme sourde parfaite pour le concept qui est sourde et courageuse. Et ton parcours a été teinté de plusieurs défis. Rachel, toi, tu es née sourde profonde.
Oui, exactement. Oui, okay. J'ai eu un virus. J'ai attrapé un virus avant la naissance. Et ça m'a rendue sourde dans le ventre de ma mère.
OK.
Et on a détecté ma surdité à 11 mois avec des tests. Et on m'a diagnostiqué ma surdité à ce moment-là. Et là, on s'est dit, on fait quoi? Et puis, il y a eu l'apprentissage de la langue des signes. Ma mère ne voulait pas que je perde ma capacité à parler.
Mm-hmm.
Donc, il y a eu du travail de fait là-dessus. Elle m'a beaucoup encouragée à parler en même temps que la langue des signes. Donc, on faisait pas du LSQ, on faisait du français signé.
C'est quoi le français signé?
Voilà. Alors, je t'explique. Le français signé, c'est un code. C'est okay. comme un code qui recopie la structure de la langue française.
Okay.
Donc, on met des signes sur des mots, mais on suit la même syntaxe que le français.
Mm.
Et tandis que la LSQ a sa propre syntaxe, oui. sa propre structure de langue, la français signé n'étant pas une langue, on superpose les signes sur les mots de la structure française.
OK, je comprends. Parce que c'est vrai, là, la LSQ, c'est pas mot à mot, là, dans l'ordre que je l'ai dit, qui vont être traduits. Hein, c'est ça, là. Ça peut être des fois un peu pêle-mêle.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est ça. Tandis que français signé, c'est vraiment le mot que je dis, il y a un signe pour ce mot-là.
Oui, oui, oui.
OK.
Oui, oui.
Mais toi, tes parents, est-ce qu'ils
Exactement.
Étaient...
Exactement. Mais c'est sûr que c'est plus long
oui,
à signer.
C'est sûr.
Parce que ça enlève la... C'est moins naturel,
mm-hmm.
mais l'avantage, c'est d'apprendre le français avec ça.
Mm, oui.
Plus retenir au début de l'apprentissage au français, c'est aidant.
Oui, mais toi, Rachel, est-ce que tes parents y étaient entendants?
Oui.
OK.
Oui, les deux entendent.
OK.
Mon frère jumeau.
Oui.
Et j'ai deux frères aussi qui sont entendants. Je suis la seule sourde
De
naissance. Je suis née sourde.
OK, mais ça veut dire à ce moment-là, même chose, tes parents, ils ne connaissent pas la LSQ. Là. Ça veut dire qu'ils ont été quand même assez proactifs de tout de suite dire « Oh non, mais notre fille... »
Ah oui, ils ont appris tout de suite. Oui. Ils sont allés prendre des cours de français signé.
Mm-hmm.
Ils m'ont aidé à mon apprentissage et tout ça. Et puis, ils ont commencé par apprendre pour eux. Ensuite, ils me l'ont montré.
Oui.
Et puis, je suis allée chez un orthophoniste. J'ai okay. eu des thérapies en orthophonie aussi.
Oui. Mais là, à ce moment-là, bon, t'es petite fille, tu es sourde dans une famille d'entendants. Mais là, comment ça s'est passé, le parcours scolaire? Là, parce que là, tout d'un coup, tes parents sont entendants. Est-ce que là, tu te retrouves dans un milieu qui est sourd et que tes parents doivent communiquer avec eux? Ou t'as été intégrée dans une école au
C'est une bonne question. C'est une question importante. Comme étant la seule sourde, je pense je vais répondre à ta question en deux volets.
Vas-y.
Donc, il y a le volet de la famille, les soupers de famille, comment mm-hmm. ça se passe dans ma famille, seule, entendante, avec tout le monde, seule sourde, avec tout le monde qui entend,
oui.
où je manque des bribes de conversation, où je ne suis pas capable de suivre. Mm-hmm. Ça, c'était difficile. Mes frères n'ont pas été obligés d'apprendre la langue des signes. Ma mère a signé, mon père, plus ou moins un peu.
Ah.
Donc, les soupers de famille, c'était pas accessible pour moi. Je mangeais, puis c'est à peu près tout. Jusqu'à l'âge de 8 ans.
OK, mais attends, Rachel, je veux juste être sûre de bien comprendre. Ça veut dire que toi, là, dans ta famille, t'as ta maman qui parle LSQ avec toi, là, français signé, là, que vous arrivez à communiquer. Ton père, presque pas. Ça veut dire que tu peux pas vraiment communiquer avec ton père. Et tu me dis que tes frères, ils ont même pas appris la LSQ, là, rien, là, pas de uh-huh. français signé, là.
Ouais. Un peu, quelques signes de base, là, jusqu'à l'âge de 8 ans. Là, ouais. je vais t'expliquer plus
oui.
Qu'est-ce qui se passe à partir de l'âge de 8 ans.
Oui, mais ça reste quand même que tu avais déjà un défi avant l'âge de 8 ans parce que on dirait que moi, d'emblée, je me dis...
Ah oui, c'était un gros défi, bien sûr. Je n'arrivais
oui.
pas à communiquer, c'est
ben non,
certain.
C'est ça.
Oui, je communiquais comme on pouvait.
Oh là là.
Donc, mettons, je pouvais pas parler, bon, de l'école, qu'est-ce qui se passait. Tu sais, quand t'arrives, tout le monde arrive à la table, on se dit, qu'est-ce que t'as fait à l'école mm-hmm. aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? J'avais aucune idée de qu'est-ce que les autres pouvaient raconter, là.
Mm. Mais tu vois, Rachel, ça, je trouve ça super important d'en parler parce que t'es pas la première que j'entends qui a vécu une situation comme ça. Vu que je suis beaucoup impliquée avec la Maison des femmes sourdes, j'en entends souvent des histoires. Moi, j'appelle ça des histoires d'horreur, là. Et c'est vraiment un enfant qui est sourd avec des parents entendants, frères, sœurs entendants, et qu'il y en a même qui ne vont même pas apprendre la LSQ. Puis là, je me dis, mais voyons donc, t'es comme parent, quel parent causerait que je tombe dans le jugement? Mais je me dis, c'est même pas tous les parents qui vont apprendre un langage pour communiquer avec leurs enfants qui sont sourds. Et c'est ce qu'on entend de ton histoire. Donc, je trouve ça... je trouve que c'est ça, à ce moment-là, ça vient vraiment...
Ben... c'est vraiment fréquent, ce que tu dis là.
Oui.
Et puis, dans les statistiques, on dit que 95 % des enfants sourds naissent de parents entendants.
Bien, c'est ça.
Ou de familles entendantes, là, oui. On peut dire ça.
Oui.
Mais le pourcentage de ce pourcentage-là, de 95 % il y a un petit pourcentage qui utilise la langue des signes, mais je ne serais même pas capable de te dire le pourcentage, non. Mais c'est vraiment minime.
C'est minime, hein, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une situation qu'on va retrouver. Et nous, comme entendants, moi, on dirait d'emblée, je me dis, ben demain matin, j'accouche un enfant sourd, c'est sûr que je suis tout de suite sur les bancs d'école pour apprendre la LSQ. Là. Pour moi, c'est non concevable que j'ai un enfant et je ne communique pas avec. Mais en étant dans le milieu, je me suis rendu compte que ça arrivait vraiment souvent et on se dirait, ah oui, c'est arrivé il y a longtemps. Non, encore maintenant, ça existe fréquemment. Et toi, ça veut dire, là, tu parlais de l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à 8 ans?
Oui, exactement. À l'âge de 8 ans, ma mère s'est battue. Elle se battait depuis les dernières années pour que j'aie un implant cochléaire.
OK, attends un peu. Pour... Implant cochléaire, qu'est-ce que c'est? Parce que juste avant, on avait...
Parce que l'implant cochléaire...
Oui.
C'est un dispositif que, bon, si une personne... Une personne peut avoir des appareils auditifs.
C'est ça, c'est quoi?
Alors, l'appareil auditif fait de l'amplification du son.
Oui.
Mais ça se peut que ça ne fonctionne pas.
Oui.
Ça se peut que la personne sourde soit trop sourde profonde, oui. Qu'elle n'ait pas de reste auditif suffisant pour bénéficier des appareils auditifs.
Oui, oui.
Bon.
Oui.
Alors, une autre technologie qui existe, c'est l'implant cochléaire.
Oui.
Donc, cet implant cochléaire-là, c'est une opération. Alors, oui. On va aller s'intégrer dans la cochlée. On va aller dans la cochlée, on va mettre des électrodes et on va aller remplacer les cils qui vibrent dans notre cochlée pour faire les sons.
Okay.
On va mettre des petites électrodes et ça va remplacer l'oscillement des cils qui fait qu'on reçoit le son. Ça va être les petits fils-là qui vont le faire.
Okay.
Et parce que c'est sûr que moi, ma cochlée était endommagée. À ce moment-là.
Mais
alors,
c'est pas
on appelle
les
ça
sourds, hein?
Une surdité neurosensorielle.
OK. Mais c'est pas tous les sourds qui peuvent avoir des appareils cochléaires non plus, là.
Oh non, pas tous.
C'est ça,
pas
c'est
tous,
ça.
Pas tous.
Ça
non,
prend une
non.
prédisposition.
Non, il faut passer un examen, il faut rencontrer un psychologue, il faut rencontrer un orthophoniste. Il va avoir, pour savoir si on est apte ou pas à recevoir cet implant-là.
OK.
Si on a eu des appareils auditifs pendant longtemps, on peut l'avoir. Si on a enlevé nos appareils auditifs, on a eu une déprivation sensorielle.
Oui.
Une déprivation sensorielle. Oui. Donc, les oreilles ont été privées du son pendant longtemps. C'est pas possible d'avoir un implant cochléaire non plus.
Là,
je suis un peu perdue de mon fil quand je me disais qu'à 8 ans...
Oui, c'est ça, à 8 ans que tu dis que finalement, t'as eu un
implant.
J'avais
une malformation de la cochlée, donc c'était impossible pour moi. Physiquement, mon oreille, c'était pas compatible de recevoir un implant cochléaire. Donc, je pouvais pas avoir ça.
OK.
Des fois aussi, il y a des gens qui ont une calcification de la cochlée, donc ça devient dur comme un os. Donc, ils ne peuvent pas aller mettre les petits électrodes. Et des fois, ça peut être une méningite aussi. Il y a plein de raisons qui font que ça ne marche pas bien.
Mais toi, as-tu un implant cochléaire ou pas?
Bon, voilà. J'ai eu, donc, de 0 jusqu'à 8 ans, pas d'implant, j'avais pas d'appareil, j'avais rien, j'avais ni prothèse, j'avais absolument rien, j'entendais rien.
OK.
Et puis, alors, même ma propre voix... ma famille, à l'extérieur de ma famille, personne ne me comprenait quand je parlais. Je parlais, mais j'étais intelligible. Personne ne comprenait ce que je disais.
Okay.
Je n'étais pas capable de reproduire rien parce que j'entendais rien.
Oui. Puis là, ensuite...
Puis là, à 8 ans, j'ai eu mon implant.
Ouais.
Et puis là, je suis allée faire des sessions d'orthophonie. J'ai eu du feedback. J'étais capable d'entendre ma propre voix et de corriger. Donc, je me suis mis à parler et utiliser ma voix après l'âge de 8 ans et j'ai amélioré beaucoup.
Comme oraliste, finalement, là. Donc, à 8 ans, tu...
Oui. Je peux parler, bien sûr.
C'est ça. On pourrait jaser ensemble en autant que tu vois bien mes lèvres bouger. On pourrait communiquer.
Oui. Attends un petit peu, je vais ouvrir mon micro.
Tu vas ouvrir ton micro? Mais on n'entendra pas très bien si tu ouvres ton micro, par contre. Oui.
Un instant, parce que là, elle a la tête baissée, fait que
elle la voit plus, là.
Je peux pas lui dire.
Ça c'est des petits.
Bon, ça devrait fonctionner maintenant qu'elle dit. Est-ce que vous m'entendez?
Ok, mais non, dis-lui qu'on peut pas là à ce moment-là avec vu que c'est à la radio, tout ça.
C'est dommage.
Oui, mais
c'est dommage.
Mais ce que je voulais dire, c'est que on peut communiquer avec toi de façon orale.
Bien sûr, je peux. Je suis capable de parler français. Je parle anglais aussi avec ma propre voix. J'utilise la LSQ, l'American Sign Language, la SL. Donc, j'ai 4 langues. Je suis polyglotte.
Mais là, à ce jour, est-ce que tu as des appareils ou des implants cochléaires?
J'ai mon implant cochléaire. J'ai un implant cochléaire.
OK, mais qu'est-ce qui fait que tu dis que ta cochlée, ça fonctionnait pas? Fait que c'est quoi? C'est que dans le fond, finalement, ils en ont mis juste d'un côté au lieu des deux côtés?
Ils ont mis juste un côté.
Oui, mais tu disais tantôt que ta cochlée, là, était pas en bon état pour avoir un appareil. Pas un appareil, un implant.
C'est une la situation, c'est que quand j'ai eu 8 ans, le programme pour l'implant cochléaire, c'était vraiment encore expérimental.
Ah, d'accord.
Puis c'était pas encore répandu, fait qu'ils ont essayé, ils essayaient d'implanter, voir ça marche-tu, ça marche pas. Ils faisaient des tests, puis c'était pas sûr, puis fait que ça c'était dans cette période-là.
OK.
Fait que là ma mère elle voulait absolument que j'aie l'implant.
Oui.
Puis elle avait commencé à l'âge que j'avais 4 ou 5 ans. Mais ils étaient pas prêts eux autres à cet âge-là à faire une opération à 5 ans. Puis là, finalement, après avoir plein des tests et tout ça, à 8 ans, ils ont accepté.
OK. Mais là, ça veut dire que à ce moment-là, avec les implants, là, est-ce que tu entends comme peut-être pas comme moi là, qui entends, mais t'as combien de pourcentage?
Non, j'entends pas comme
non,
toi, bien
ça,
sûr. J'entends pas comme toi.
T'as
pas
combien
du tout
de pourcentage?
L'implant. Mettons, c'est un fil, on met 22 ou 24 électrodes qui implantent dans la cochlée.
OK.
Les électrodes, chaque électrode envoie un signal électrique qui stimule le nerf auditif.
OK.
Alors, il y a le nerf auditif, là, ils sont collés, puis là, ça envoie de l'électricité par séquence à chaque électrode dans ce fil-là, dans le nerf auditif.
OK.
Et puis si, ça donne de l'information au nerf auditif. Les 22 ou 24 électrodes, ça dépend des compagnies qui font les implants cochléaires, c'est différentes compagnies. Moi, j'ai 24 électrodes. Et toi, avec ton audition normale, je pense que c'est 15 ou 22 000 cils que tu as dans ta cochlée.
OK.
Et ça veut dire que toi, des très petits sons, chaque cil est responsable d'envoyer de l'énergie à ton cerveau et un message.
Mm-hmm.
Moi, j'en ai 24 au lieu des milliers.
Ah oui, hein?
Donc, c'est un son plus électronique, je te dirais.
OK, je comprends. Mais...
Fait que c'est sûr, c'est ça.
Fait que là, dans le fond, t'as...
J'entends beaucoup moins que toi.
Oui, ben, c'est ça. Je faisais un peu comme une petite blague parce que je m'en doutais bien. Mais là, dans le fond, à ce moment-là, ton implant cochléaire, et à quel âge que tu as eu ton implant cochléaire?
J'avais 8 ans.
C'est ça. Fait que vraiment, tu l'as eu à 8 ans. Ce qui veut dire qu'ensuite, est-ce que ça l'a aidé pour ton parcours scolaire? Tu sais que justement, tu es allé faire un cours pour être
psychologue. Oui, ça m'a beaucoup aidé.
OK.
Faut comprendre que j'étais obligée d'aller dans des rendez-vous d'audiologie, faire de l'entraînement auditif pour apprendre à reconnaître les sons que j'entendais. Est-ce que ça, c'est un A? Est-ce que ça, c'est un I? Oui, est-ce que ça, c'est un U? Ça a été beaucoup d'entraînement et ça n'a pas été... moi, j'ai parlé... Écoutez, je n'avais jamais entendu jusqu'à 8 ans. Donc, mon cerveau, il n'y avait pas de point de référence.
Mm-hmm.
On savait, mon cerveau, il ne sait pas c'est quoi aigu, c'est quoi grave, qu'est-ce qu'une voix de femme, qu'est-ce qu'une voix d'homme, qu'est-ce qu'un cri d'animaux, qu'est-ce qu'un cri d'oiseau. Le téléphone, le son de porte, la sonnette de porte. J'avais aucune référence. Mon cerveau, il a fallu que j'apprenne tous ces sons-là, un après l'autre.
Ouf,
donc, ça a été très long.
C'est sûr. Ça a été tout ton... Après ça, à partir de 8 ans, là, ça, tu dirais que ça a pris à peu près combien d'années avant que vraiment là, ton cerveau comprenne bien les sons?
Mon Dieu, je me rappelle pas exactement. Je pense que j'avais... Pour peut-être avoir... ça a été fait intensivement pendant un an.
Oui.
Et puis, fait que de 8 ans à 9 ans, puis après ça, un peu graduellement avec le temps.
OK. Donc, ton parcours après ça, secondaire, c'était plus facile?
Oui.
Au niveau du son, oui, là, je parle. Oui. Là.
Un instant, j'ai perdu quelque chose.
Oui. Est-ce que...
Ça sera pas long.
Ah oui, OK.
Madame ne me voit plus.
Non?
Parce que là, ça avait fermé, puis elle se voyait tout seule, elle ne voyait plus l'interprète.
OK, OK.
Là, c'est correct.
Là, c'est correct?
Oui, okay. C'est bon, parfait. Okay.
Et Rachel, parce que là, t'es
veux-tu répéter ta question que tu disais avant qu'on perde?
Je disais, dans le fond, ton parcours au niveau du secondaire, comme si finalement les sons, c'était plus facile là, que tu les avais appris de 8 à 9 ans, surtout. Après ça, c'était graduel. Donc, au secondaire, est-ce que c'était plus facile?
Encore là, c'est un différent défi. Oui. Je comprenais mieux avec l'implant au secondaire, mais quand il y avait beaucoup de bruit, c'était difficile.
OK.
J'ai toujours eu un interprète.
Mm-hmm.
J'ai toujours eu un interprète en classe. Je suivais mes cours avec l'interprète qui était devant moi. Et puis, j'étais assise en avant, l'interprète en avant. Je suivais le professeur. Les questions en arrière étaient reprises par l'interprète. Mm-hmm. Donc, on n'avait pas le choix d'avoir un interprète parce que le temps que je me tourne puis j'essaie de voir qui parlait, je ne pouvais pas avoir participé comme un entendant. J'avais besoin d'un interprète.
Ça veut dire que tu avais un interprète avec aussi tes implants, ton implant cochléaire, là.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
Oui.
Et puis,
c'est sûr que là, maintenant... si on voit les enfants d'aujourd'hui, avec le programme d'implant cochléaire qu'il y a aujourd'hui, souvent, ils sont implantés très tôt.
Oui.
Ils sont implantés à 2, 3 ans, 4 ans, et plus tard, à 6, 7, 8 ans, ils ne les implantent plus. Puis même, ils ont été implantés plus tard, ils ont eu des prothèses. Donc, ils sont habitués d'entendre très jeunes.
Mm-hmm.
Donc, ils utilisent moins d'interprètes, cette génération-là.
Oui, c'est ça. Et toi, à quel moment tu as voulu t'en aller en psychologie? Est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais quand tu étais petite fille, adolescente?
Bon, quand est-ce que j'ai pris la décision de devenir psychologue?
Oui.
Oh boy!
Ben parce que...
Faut que je cours dans le temps, là.
Ouais.
Au secondaire, j'avais suivi un cours de père aidant. C'était le rôle comme d'écouter, d'aider ton ami, l'autre personne, l'autre étudiant qui avait des difficultés.
Ah, okay.
On écoutait, donc c'était un cours de père aidant, P-A-I-R.
P-A-I-R, oui, OK.
Et comment faire de l'intervention et tout ça. Et puis après, quand je suis allée au cégep, j'aimais quand même les sciences pures, les sciences comme la physique, les mathématiques, la chimie, la biologie. J'étais attirée pour ça.
Mm-hmm.
Alors, j'ai fait mes sciences nature.
OK.
J'ai fait un DEC en sciences nature.
Oui.
Et puis, mais j'avais l'impression que les sciences nature, ça me correspondait pas.
OK.
Ça, je préférais plus quelque chose de plus humain, d'une approche plus humaine. Alors, je me suis mis à lire les programmes universitaires en sciences humaines. Qu'est-ce qu'il y avait?
Oui.
J'ai lu les descriptions des cours et puis... J'avais jamais été attirée par la psychologie.
OK.
Mais je me suis dit, ben pourquoi pas la psychologie? C'est de la biologie humaine.
Mm-hmm.
Hein? Fait qu'une des choses, la psychologie, qui finalement m'a attirée, mais je voulais pas devenir médecin. J'avais pas les notes pour me permettre d'aller en médecine.
Oui.
Donc, j'ai opté pour la psychologie. Et puis, j'ai essayé un an et j'ai fait le saut. Et puis, c'est ça. Finalement, je tombe en amour avec ça. J'ai adoré la psychologie. Et depuis petite, ma mère et moi, on avait des arguments. On parlait des humains. Pourquoi les gens font ci? Pourquoi les gens font ça?
Oui.
J'essayais de comprendre la vie. J'essayais de comprendre les comportements humains déjà petite. Fait que ça a comme été un chemin naturel vers la psychologie. Et puis, c'est comme quelque chose que j'avais en dedans de moi, mais que je ne savais pas et qui a émergé à l'université.
Mais ça veut dire que tu as fait ton parcours cégep et université avec une interprète?
Oui.
OK.
Oui. Et puis un preneur de notes aussi.
OK. Et ça, c'était le gouvernement qui payait ça, là?
Oui, le gouvernement payait ça pour les services. OK. Oui.
Puis toi, après ça, parce que là, d'être psychologue, c'est le défi au niveau du travail, hein, parce que là, tu es vraiment en interaction, en relation d'aide. Est-ce que ça veut dire que tu es psychologue pour les sourds uniquement?
Non, pas seulement pour les sourds. Non.
OK.
Monsieur, madame, tout le monde.
Est-ce que parce que tu as une interprète avec toi à tous les jours que tu travailles
non,
ici?
Non, j'ai pas besoin d'interprète.
Non?
On utilise un micro, un micro sans fil.
Oui.
Donc, le client a un micro sans fil qui est connecté directement par Bluetooth dans mon appareil.
Oh mon Dieu, wow!
Puis, et là, j'ai l'émetteur à côté du client. Puis là, j'entends directement dans mon appareil. Donc, ça m'aide.
Ah oui!
C'est moins fatigant.
Oh, wow!
Ah, oui.
Ça veut dire que tu peux avoir...
Si moi, j'entends... Si je me fie simplement à ce que j'ai juste mon appareil, c'est un peu fatigant. Fait que je me limite à 3 clients par jour. Je fais pas plus que ça, parce que c'est trop fatigant.
Okay.
Avec le micro, ça m'aide.
OK.
Ça fatigue moins.
Et à ce moment-là, ça veut dire que tu as la personne qui vient dans ton bureau, il y a un micro, et est-ce que justement tu dois lire sur ses lèvres aussi?
Je lis sur ses lèvres aussi.
Aussi, OK.
En même temps, je profite de ce que j'entends, puis je complète avec si c'est un client sourd, j'utilise la langue des signes, j'utilise le mode de communication de prédilection de mon client. Donc, je suis assez flexible.
Mais je trouve ça vraiment impressionnant, Rachel, là, parce que là, déjà, être psychologue, on s'entend que c'est pas simple. Moi, je suis pas psychologue, mais je suis intervenante. Là. J'ai fait une formation en éducation spécialisée, donc je sais c'est quoi la relation d'aide. J'ose imaginer psychologue et en plus avec les défis au niveau de la langue. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et toi, ça veut dire que quand tu étudiais, là, tu savais déjà que tu s'en allais dans une branche quand même qui allait avoir des défis, là.
Ah oui, je savais qu'il y aurait des défis.
Oui.
Je savais qu'il y aurait des défis, mais je vais t'avouer franchement que j'ai eu des doutes.
Oui.
J'ai eu des doutes. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller en stage au public. Je suis allée voir concrètement qu'est-ce qui se passait. Les entendants, qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter? C'est quoi la clientèle entendante?
Mm-hmm.
Je me suis dit, bon, je pense que ça va fonctionner.
Oui.
Mais je ne suis pas allée en pratique privée dès le départ. Je suis allée travailler au public avant parce que j'étais pas certaine que les clients entendants voudraient d'une psychologue sourde.
Mmh.
Je doutais de ça parce que c'est eux qui payent. Hein?
Oui.
Parce qu'ils veulent un bon service là, quand ils payent. Ils veulent un service parfait. Là. Ils veulent pas un bris de communication. Ils veulent pas que je les fasse répéter, que je comprenne pas. Je me suis dit, serais-tu prêt à payer une psychologue sourde? Fait que j'ai essayé une journée par semaine.
Oui.
J'ai pris une petite clinique privée avec quelques... entendants.
Oui.
Et puis, il y a des clients qui sont revenus et revenus et revenus. Je me disais, ah bon, c'est correct. Je pense qu'il y a de l'intérêt, puis je pense que des gens que ça dérange pas que je sois sourde, ils m'acceptent comme je suis.
Mais Rachel, c'est vraiment super intéressant. On doit...
J'ai une bonne relation avec les gens.
Oui, on doit s'arrêter. C'est vraiment super intéressant. Ça veut dire que les gens peuvent aller sur ton site, Rachel Filion, même si on est entendant, et on va avoir un service avec toi d'une psychologue extraordinaire. Merci beaucoup, Rachel, d'être venue pour cette entrevue. Merci.
Merci à vous.
Merci. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Eh bien, moi, je vous remercie. Ça a vraiment été une belle émission. Je remercie d'offrir cette tribune pour parler de femmes qui sont sourdes et qui sont courageuses. Merci à Canalem. Merci à Mathieu Tessier pour la mise en onde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.